La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pour une nouvelle semaine pour discuter de l'actualité locale, une demi-heure du lundi au jeudi à 18h. Et on commence cette semaine pour parler émergence musicale, puisque je me suis entretenu un peu plus tôt dans la journée avec Julien Soulier, qui est le directeur du FER. C'est un dispositif d'accompagnement des plus anciens, puisqu'il a été créé en 1989. Chaque année, il sélectionne 15 artistes qu'ils vont accompagner de différentes manières. Et pour en savoir plus, eh bien, je vous propose que l'on commence cette émission sans plus tarder. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le FER, ou Fonds d'Action et d'Initiative Rock, est une association créée en 1989 à l'initiative du ministère de la Culture dans le but d'accompagner des artistes et groupes français émergents. Après plus de 30 ans d'existence, il s'agit du plus important dispositif de soutien et de professionnalisation dans les musiques actuelles, et la liste des artistes qui en a profité des années 90 à aujourd'hui est assez impressionnante. Cette année encore, 15 artistes seront sélectionnés et pourront profiter de différents axes de développement, et si la première salve de sélectionnés a été dévoilée il y a peu, la deuxième session est ouverte jusqu'au 31 mars. Pour discuter de tout ça, nous sommes en ligne avec Julien Soulier, directeur du FER depuis 2013. Bonjour.
Bonjour.
On va parler du FER dans quelques instants, mais avant ça, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours ? Tu as été manager, tu as travaillé pour des labels, tu as été programmateur de festivals, tu as vraiment une carrière qui est dédiée aux musiques actuelles. Comment est-ce que ça avait commencé tout ça et qu'est-ce qui t'a fait rester dans ce milieu ?
Tout a commencé parce que j'ai failli être banquier et que heureusement j'ai fait un autre choix. j'ai fait un parcours assez classique, une école de commerce. Je voyais mon père être banquier heureux, donc à 18 ans, 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc je voulais faire pareil, et en fait moi j'étais pas du tout heureux. Heureusement j'ai fait un stage de fin d'études dans la musique et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai mis pied à l'étrier et que de fil en aiguille j'ai bossé pour des labels, j'ai monté des créations pour des festivals, j'ai été manager, producteur, plein de choses. J'ai monté une structure qui s'appelait La Familia, et puis j'ai eu des artistes qui ont eu le FER. Donc j'ai connu l'ancienne directrice Claude Guyot, et puis à un moment elle est partie à la retraite et il y a eu une offre pour postuler à ce poste, et donc j'ai décidé de m'engager et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et donc on était une cinquantaine je crois pour postuler, et j'étais content de pouvoir avoir ce poste parce que c'est une mission d'intérêt général et on est avec les artistes pour leur expliquer la filière, les accompagner artistiquement, à se structurer, enfin bref c'est passionnant, et effectivement je suis là depuis 7 ans maintenant.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc qui est-ce qu'on peut retrouver, quelles sont les équipes un peu du FER, est-ce que vous êtes nombreux, et toi un peu en détail, en quoi ton poste consiste ?
On n'est pas très nombreux, mais on a la chance de travailler avec beaucoup de partenaires, justement sur l'accompagnement et la professionnalisation. Au sein du dispositif, on est trois, allez, on va dire trois et demi. Il y a Fabienne Azzaro qui est l'administratrice et qui gère aussi pas mal de formations au sein du dispositif. Il y a Julie Cerisé qui est responsable communication et partenariat, et moi qui en suis le directeur. Et quand je dis trois et demi, c'est parce qu'on travaille aussi avec Patricia Teglia, qui est notre attachée de presse, mais elle n'est pas que dédiée au FER. En tout cas, elle fait vraiment partie de l'équipe et des réflexions qu'on peut avoir sur les évolutions. Moi, mon rôle, c'est d'être en relation avec les artistes, avec la filière, pour réfléchir à leurs problématiques, faire les diagnostics, pour savoir justement vers quoi on va orienter notre accompagnement. C'est vrai que c'est aussi réfléchir à ce que doit être le FER en 2021 par rapport aux évolutions aussi de la filière, puis toute cette crise et cette pandémie. Et donc c'est hyper intéressant d'être là, même si c'est pas facile, mais en tout cas on essaye de prendre justement les problématiques des artistes pour essayer d'y répondre et de les accompagner dans ce sens.
On va revenir un peu plus tard sur l'adaptation forcément nécessaire à l'année écoulée et sûrement les mois qui viennent. Avant ça, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'accompagnement qui est proposé par le FER, donc il se déroule en 5 axes. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire en quoi ça répond aux besoins un peu principaux que peuvent avoir les artistes?
Le premier axe, c'est l'argent. C'est une bourse qui peut monter jusqu'à 10 000 euros. Moi, quand je suis arrivé, c'était 6 000 euros et avec des choses très précises dans l'utilisation. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc y a toujours besoin d'argent pour pouvoir développer des projets. Le deuxième axe, c'est la formation qui est très important pour nous, avec une formation, on va dire, théorique sur les contrats, le statut social, la fiscalité de l'artiste et tout ça, qui se fait en séminaire à 1 heure de Paris pendant une semaine. On fait une formation plus artistique avec le studio des variétés, où là, ça va être plus des cours de chant, des cours de coaching vocal, d'harmonie vocale, pardon, ou coaching scénique, ou travailler son instrument, ou travailler la MAO, mieux comprendre la musique assistée par ordinateur avec Ableton, Logic, Pro Tools, ce que tu veux. Il y a toute une formation de structuration économique qui est un peu la plus-value du dispositif, dans le sens où on va vraiment travailler la to-do list administrative des artistes en tant qu'auteur, compositeur, interprète. C'est qu'aujourd'hui, on se dit un dispositif d'accompagnement de projet, mais de professionnalisation des individus. Et donc, on travaille avec eux sur tout ce qui est SACEM, ADAMIS, MEDIDAM, passage du régime général à l'intermittence, quand ils sont justement en passe d'aller dans le régime de l'intermittence. On va parler structuration avec soit une association, soit une structure commerciale, et on va faire tout ce travail-là avec notre partenaire Ideal Rights. Il y a 3 jours sur le corps et la santé du musicien, on fait des filtres auditifs moulés, des audiogrammes pour les artistes, on leur offre des bouquins de Birma sur la filière, les contrats et tout ça. Ça, c'est vraiment la partie formation qui est importante pour nous. Diffusion, alors forcément cette année, on fera pas de diffusion. On fera que les concerts au Café de la Danse à Paris de présentation des artistes. Alors on en a un le 1er mars, mais on le fera sans public parce que les contraintes aujourd'hui sont celles-là. Mais on va faire une captation avec caméra et tout ça, avec notre partenaire Quack Production, pour pouvoir justement offrir aux artistes du contenu de façon à pouvoir le mettre sur les réseaux. Et c'est vrai que cette année, on va faire plus de contenu pour eux parce qu'on ne pourra pas les aider sur l'aspect diffusion, soit en SMAC, soit en festival ou autre, parce que on a fait le choix de tout de suite tout arrêter, parce qu'aussi on a des contraintes budgétaires cette année. Mais surtout, c'était tellement incertain qu'on préférait ne pas mobiliser une partie du budget sur des choses qu'on ne savait pas si on pouvait les faire ou pas. Là, tout ce qu'on va proposer, c'est du concret, donc on peut avancer et justement être hyper positif par rapport à tout ça dans une période pas facile, mais au moins tout ce qu'on propose aux artistes, on sait qu'on va pouvoir le développer, et c'est hyper important pour nous. Donc les 3 premiers axes, bourse, formation, diffusion. Après, communication, l'axe 4, où là on crée plus de contenu aussi cette année, des sessions live filmées en studio avec LCBWA, une agence de pub qui est partenaire mécène du FER. On va faire aussi des interviews des artistes, bref, créer pas mal de contenu en partant du principe que l'artiste est son propre média. Des compilations disponibles aussi avec les titres des artistes sur les plateformes. On va sortir un vinyle au mois d'avril, enfin toutes ces choses-là. Des diagnostics aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux par les artistes et s'il y a besoin de les accompagner là-dedans. Et puis le dernier axe, c'est tout ce qui est conseil. Donc justement, pour les projets qui n'ont pas beaucoup d'entourage, on va parler rétro-planning, recherche de partenaires, justement, connexion avec la filière. Et pour ceux qui sont plus accompagnés, on va aussi parler relecture des contrats, négociation s'il y a besoin, en tout cas compréhension de ce que signent les artistes. Et donc c'est un couteau suisse assez complet qui permet d'accompagner les artistes sur pas mal de leurs problématiques, et notamment sur la problématique on parle beaucoup de l'artiste entrepreneur ou producteur, et c'est vrai que là-dessus on est quand même assez bien armé pour les accompagner et créer des cercles vertueux pour la suite.
On imagine que les besoins, comme tu le dis, sont différents pour chaque projet, mais est-ce que pour autant il y a des questions, des problématiques, des choses qui reviennent un peu de manière plus générale?
C'est comment émerger dans un paysage aussi compliqué, alors au-delà de la pandémie tout ça, mais c'est qu'il y a, je crois, c'était Émilie Gounod qui m'avait donné ce chiffre-là, c'est 40 000 titres qui sortent tous les jours sur les plateformes. Donc comment on fait pour être celui qui va être plus vu, plus regardé? Comment on fait voilà pour trouver les bons partenaires qui comprennent le projet et qui vont l'accompagner. Et si on n'y arrive pas, comment on fait pour rester dans cette filière? Parce qu'aujourd'hui, tous les artistes ne sont pas à vocation d'être les prochaines têtes d'affiche de tous les festivals et à vendre des disques d'or, de platine et tout ça. Mais il y a plein d'artistes qui peuvent vivre de leur musique de façon différente. Et donc, c'est aussi cette construction-là qui est importante. Donc, c'est des gens qui ont envie d'être dans la filière. Et après, c'est tester des choses, voir si on y arrive, si on n'y arrive pas, mais comment, après, construire une carrière qui passe peut-être par plusieurs projets artistiques, mais ou pas artistiques, mais d'autres projets. Il y a des gens qui font de la musique à l'image, il y en a qui écrivent pour les autres, qui construisent pour les autres. Bon, je viens de dire pas artistique, ça c'est complètement artistique tout ça, mais il peut y avoir de l'action culturelle, il y a plein de choses possibles et imaginables pour les artistes. Et donc c'est aussi nous les ouvrir un petit peu à toutes ces choses-là. Et souvent les problématiques, c'est ça, c'est comment sortir du lot quand justement il y a autant de diffusion de titres qui a lieu tous les jours, quoi.
Tu as évoqué le comité artistique. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce comité artistique? Est-ce que tu peux revenir aussi sur les critères de sélection pour être éligible au FER?
Le comité artistique, en fait, il est paritaire. Déjà, c'est important de le signaler. On a 14 lauréats chaque année. Il y aura donc 7 femmes et 7 hommes dans le comité artistique. Et après, en fait, eux choisissent au coup de cœur vraiment. Donc on met pas de quantitatif dans le qualitatif. Ils vont avoir une présélection d'à peu près entre 500 et 1000 groupes en fonction des sessions qui postulent. On fait une présélection, l'équipe du FER fait une présélection d'à peu près 180-200 groupes qui rentrent dans les critères. Justement, les critères, c'est être inscrit en cours d'inscription à la SACEM, avoir au moins 80% d'œuvres originales, au moins un partenaire autour du projet, manager, éditeur, tourneur, producteur, avoir fait au moins 5 concerts et avoir un titre exploité de moins de 4 ans. C'est-à-dire que si vous avez un titre qui a été exploité il y a 5, 6 ou 7 ans sur les plateformes ou en physique, vous ne rentrez plus dans les critères puisqu'on veut essayer de se placer quand même au démarrage de carrière. Donc ça, c'est les critères. Et le comité artistique, nous, on le choisit nous-mêmes. Fabienne, Julie et moi, on a des listes de gens de la filière qui n'ont pas encore fait parrain ou marraine, parce que nous, c'est un choix. Une personne choisit un projet, c'est pas des choix de consensus mou où tout le monde va donner des notes et tout ça. Et donc ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, on va retrouver des tourneurs, des producteurs, des éditeurs, des managers, des attachés de presse, des médias. Enfin, voilà, on prend vraiment des programmateurs de salles, de festivals. On va prendre vraiment tous les métiers qui sont en contact avec les artistes et leur demander de choisir au coup de cœur un projet. Et jusqu'aux 30 ans du FER, donc il y a 2 ans, on avait été parrain ou marraine, on pouvait pas l'être à nouveau. Et on a réouvert un petit peu pour réintéresser les anciens parrains ou marraines au dispositif. Et c'est comme ça que, par exemple, un jour, Louis Brossard, le programmateur des Transmusicales de Rennes, qui avait été parrain d'un groupe en 1990, la première année, a été aussi parrain de Tchégué en 2019, et qu'on trouvait que c'était sympa de pouvoir le réinviter 30 ans après.
Tu l'as bien expliqué, hein, que ça marchait au coup de cœur des personnes qui composent ce comité. Est-ce qu'il y a d'autres petites règles, comme, je sais pas, essayer de conserver un certain éclectisme entre les genres, ou s'il y a une année, il y a 10 coups de cœur hip-hop, et ben, il y aura 10 artistes hip-hop d'accompagner, par exemple?
On essaye de pas mettre de quantitatif dans le qualitatif, donc on fait, nous, attention à la parité de notre comité artistique, mais après, je vais pas demander... je sais pas, moi, une femme de mon comité, de choisir forcément un groupe de femmes qui chantent en occitan et qui habitent à Montpellier ou à Toulouse, quoi. On sent qu'il y a des volontés aussi de mettre un peu de quantitatif dans ce qualitatif, mais tant qu'on peut rester vraiment sur le coup de cœur artistique, c'est chouette. Après, c'est pas évident, hein, pour les gens du comité artistique de passer de 180 et quelques projets à 1. Donc souvent, ils ont une liste du 10, 15, 20 projets qu'ils aiment beaucoup. Et c'est là où nous, on intervient aussi, entre guillemets, en leur donnant plus d'informations sur le projet, et notamment ce que le groupe attend du FER et des formations et tout ça, pour que le parrain ou marraine puisse aussi sélectionner un projet qui a bien compris ce que nous, on pouvait apporter à travers le dispositif au projet et à l'individu. Et des fois, je caricature qu'à moitié, mais qu'attendez-vous du FER? Réponse, la bourse de 10 000 euros, point. Quand tu fais partie d'un top 10 d'un une personne du comité artistique et que l'autre personne, un autre projet qui est tout autant apprécié artistiquement aura répondu qu'attendez-vous dû faire des rencontres avec d'autres artistes, continuer à me professionnaliser, à mieux comprendre la filière et tout ça, le parrain ou marraine aura peut-être plus envie de d'aider un artiste qui aura compris là où il va mettre les pieds plutôt qu'un qui va venir que pour les sous, quoi. Donc, s'il y a du quantitatif, c'est à travers les réponses que vont donner les artistes ou les partenaires des artistes en répondant à notre dossier d'inscription, qui est très contraignant, mais qui est important pour nous, parce que c'est une première sélection. Si on n'est pas prêt à passer un peu de temps pour remplir bien ce dossier, ça sert à rien de postuler au fer. Et par contre, de bien le remplir pour nous donner bien les éléments de compréhension de ce qu'est le projet, de ce que le projet attend aussi du dispositif, ça peut aussi jouer en la faveur de l'artiste pour qu'il soit choisi à la fin. Mais en tout cas, pas de quota, pour reprendre un mot que j'aime pas trop, pas de critères quantitatifs dans le choix pour le moment au sein du FER.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur la première session avec donc les artistes qui ont été dévoilés, sélectionnés il y a quelques temps? Est-ce que tu peux nous les présenter un peu succinctement, et est-ce que toi tu as dans cette liste des choses qui t'ont parlé particulièrement?
Alors les 7 lauréats FER 2021 session 1 sont Chien Noir, Coco Bans, Fiskara, Forme, Johnny Jane, Le Comte de Bréjot et Lucie Antounès. C'est 7 projets hyper dans l'air du temps, enfin je trouve, que j'aime beaucoup. On a déjà rencontré aujourd'hui 4 des 7 lauréats et au courant de la semaine on va rencontrer les 3 autres qui sont pas encore venus nous rencontrer. On prend une demi-journée en gros pour apprendre à les connaître et personnellement et sur le projet et leur expliquer bien ce que le dispositif peut leur amener. Enfin voilà, pour le moment j'ai trouvé une vraie envie en tout cas d'être accompagné dans cette période compliquée. On leur a proposé de soit faire les rendez-vous en visio, parce que y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont à Lyon, c'est pour Le Comte de Bréjot, ou à Bordeaux pour Chien Noir. Les autres sont plutôt à Paris, en région parisienne, mais tous ont voulu se déplacer. Alors bien sûr, on distanciation sociale, les masques, le gel et tout ce qui va bien, de façon à pouvoir honorer ces rendez-vous. Mais on sent une vraie envie d'en découdre sur la suite, de pouvoir justement se reposer les bonnes questions par rapport à l'évolution de la filière en ces temps compliqués, à quel moment la reprise, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait en attendant. Et donc c'était hyper intéressant de les rencontrer tous et vraiment quand je les ai eu au téléphone pour leur dire vous êtes lauréat, c'était une vraie bonne nouvelle, enfin comme ils l'attendaient plus, quoi. Enfin voilà, c'était déjà début 2021, je les ai appelés en leur disant ça et il y avait un vrai soulagement et une vraie fierté d'être sélectionné et d'être accompagné, et une vraie compréhension de ce qu'était le dispositif de la part de ces 7 là, ce qui est chouette, parce que des fois je me suis retrouvé à appeler des artistes qui savaient pas trop pourquoi je les appelais, puisque c'était un de leurs partenaires qui avait postulé pour eux au dispositif. Donc là c'était vraiment hyper intéressant, et pour le moment on a rencontré Chien Noir, Fiskara, Forme et Le Comte de Bréjot. Et cette semaine, on va rencontrer Coco Bans, Johnny Jane et Lucie Antounès. Et c'est hyper chouette de recommencer des nouvelles collaborations, de repartir de zéro, de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, comment ils se sont appropriés leur projet, avec qui ils travaillent, comment, et de commencer à faire partie de cette aventure avec eux, quoi. C'est vraiment hyper hyper intéressant, et c'est ce qui nous motive tous les matins à nous lever, l'équipe, pour ça, quoi.
Pour repasser sur le sujet peut-être un peu moins positif au premier abord, mais donc ça a été évoqué plusieurs fois, évidemment, vu la situation actuelle, peut-être en dire un mot, parce que de par ta situation, un peu au croisement de la filière, que voilà, ça soit les artistes ou toutes les différentes structures avec lesquelles vous êtes partenaire et vous collaborez, quel regard tu portes sur à la fois toute cette année 2020 et la situation qui continue encore aujourd'hui, et quel impact ça à la fois maintenant, et si ça continue, quel impact ça va continuer à avoir pour les musiques actuelles?
Au-delà des musiques actuelles, c'est l'émergence, et effectivement, tout le monde parle d'embouteillage, il y aura un embouteillage à un moment donné, parce que, et tant mieux si tous les fans, les spectateurs et tout ça se nourrissent encore plus demain qu'aujourd'hui de concerts, de sorties et tout ça. Mais c'est vrai que là, ça fait un an maintenant que la filière est en stand-by, que c'est pas évident parce que on est nous sur des métiers qui voient à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour monter aussi des stratégies et que depuis 1 an, on a 3 semaines de visibilité, quoi. Et qu'on attend le dernier point du ministre de la Santé et du Premier ministre pour nous dire si on va pouvoir faire ceci, cela ou pas et machin. Donc c'est très frustrant, très énervant et en même temps, c'est pas comme si on avait le choix. Donc il faut prendre son mal en patience, il faut s'organiser, il faut alors c'est peut-être pas évident pour certains artistes de créer en ce moment et en même temps ils ont quand même cette création aussi pour pouvoir sortir un peu de ce quotidien pas forcément très joyeux. Moi je pense beaucoup aux gens du spectacle, aux bookers, aux programmateurs qui eux subissent ça et n'ont pas la création derrière pour essayer de sortir un peu de ça. Donc voilà, on a décidé nous de faire l'impasse sur la diffusion cette année, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour mieux revenir en 2022 et que là, bah voilà, on essaye de réfléchir avec eux à quelle stratégie, quoi sortir quoi, à quel moment, parce que il y a des projets qui ont besoin du live absolument pour exister, d'autres moins. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on essaye aussi nous d'être assez positif. Avec les artistes pour leur dire que de toute façon à un moment ça va revenir, mais c'est juste que l'an dernier en mars on pensait que ça serait l'été, puis l'été ça serait l'automne, puis l'automne là, et puis ça ne fait que se décaler avec les variants, les tout ce que tu veux, et de toute façon on est tributaire de tout ça, mais la vaccination avance et qu'on espère, comme l'annonce le gouvernement, qu'à la fin de l'été il y a suffisamment de monde pour que ça reprenne peut-être à l'automne. Et je dis ça, j'en sais rien, comme notre ministre Roselyne Bachelot qui a annoncé qu'on devrait pouvoir le faire pour les festivals cet été, je l'espère, et en même temps à février 2021 on n'a aucune possibilité de savoir si oui ou non on pourra faire quoi que ce soit cet été, en assis, en debout, en machin, en truc. Voilà, faut prendre son mal en patience et y croire et se dire qu'on a la chance d'avoir des partenaires autour de nous et des dispositifs comme le FER pour pouvoir justement passer cette étape et voir en l'avenir quelque chose de plus agréable que ce qu'on vit malheureusement depuis 1 an maintenant.
On l'espère tous et oui, évidemment, on espère aussi pouvoir au moins avoir quelques événements en plein air à la faveur des beaux jours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Julien, et donc pour celles et ceux qui seraient intéressés pour postuler au FER, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars pour la deuxième session.
Oui, jusqu'au 31 mars, midi précisément, à midi une, c'est trop tard. Mais voilà, c'est pour être sélectionné en septembre 2021 pour la session 2.
Et si vous êtes un artiste ou un groupe émergent et que vous êtes intéressé pour cet appel à candidature du FER, ou si vous souhaitez tout simplement avoir plus d'informations, toutes les infos sont disponibles sur lefer.org. Et puis quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants. Ça sera après un titre d'une des précédentes lauréates du FER, en l'occurrence le FER 2019, Colline Marianne avec le titre FERcor. De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, vous êtes toujours dans la Covidienne, il va être quant à nous l'heure de nous quitter. On se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, portez-vous bien, très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus.